Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. On ne choisit pas sa géographie. Le Mexique est pris entre le marteau et l'enclume, entre Donald Trump, qui a fait de l'immigration le thème prioritaire de sa présidence, et les petits pays de l'Amérique centrale, dont la population cherche à tout prix à fuir la misère et la violence. Depuis 5 mois, les Mexicains ont un nouveau président, élu sur de multiples promesses, à commencer par la lutte contre la corruption. Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, s'était engagé à accueillir les migrants venus du Sud. Aujourd'hui, le pays frôle l'asphyxie, tant Washington durcit l'accès à la frontière nord et menace périodiquement d'augmenter ses tarifs douaniers, quels que soient les risques pour les deux économies. La violence, les gangs, les cartels de la drogue continuent de sévir au Mexique. Comment la population fait-elle face? Comment le nouveau pouvoir peut-il répondre à ses attentes? Jusqu'à quel point AMLO, le président, est-il en fait prisonnier de l'agenda migratoire américain? Le Mexique a choisi de ne pas prendre parti dans la crise internationale qui accable le Venezuela. Quel impact sur les équilibres régionaux? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Alain Musset. Bonjour, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Pierre Salama, merci d'être avec nous. Professeur émérite des universités, Centre d'économie de Paris-Nord. Par téléphone depuis Mexico, Laurent Farret, bonjour. Vous êtes professeur en géographie de l'Université Paris Diderot et vous travaillez en ce moment au Centre d'anthropologie sociale à Mexico. Et par téléphone aussi, mais cette fois depuis Nice, Isabelle Vagnoux, vous êtes professeur à l'Université d'Aix-Marseille et rédactrice en chef de la revue Ideas, Idées d'Amérique. Alain Musset, expliquez-nous donc qui est cet AMLO qui a été élu l'été dernier. Il est en fait entré en fonction il y a 5 mois, parce qu'il y a toujours un décalage au Mexique, après quelques 76 ans de pouvoir ininterrompu de ce qu'on appelle au Mexique le Parti révolutionnaire institutionnel, ce qui nous paraît à nous, en Europe, contradiction dans les termes. Mais donc, AMLO a nommé son mouvement la régénération nationale. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il s'agit effectivement de rebattre complètement les cartes, en sachant que il y a eu cette... On appelait la dictature parfaite du prix pendant des décennies. Il y a eu quand même une interruption avec le PAN. Hein, voilà, ouais. Il y a eu une bonne parenthèse avec le Parti d'Action Nationale, mais c'est la première fois depuis, en gros, la révolution mexicaine, qu'il y a un autre parti qui est au pouvoir avec Morena, donc le mouvement pour la régénération nationale. L'idée, c'est de changer les choses.
Et de changer les choses environ à gauche, alors que tout l'hémisphère sud des Amériques a fait l'inverse.
Oui, mais vous savez, là, alors si on replace dans le contexte régional, il faut voir qu'il y a des mouvements. Il y a une quinzaine d'années, c'était plutôt la gauche qui s'emparait de tous les postes. Maintenant, il semblerait qu'il y ait un repli. Et effectivement, dans ce repli-là, il fait office d'exception. Mais il faut aussi faire très attention quand on dit que c'est le premier président de gauche du Mexique. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le parti révolutionnaire et institutionnel est un parti au départ révolutionnaire qui a pris des mesures de gauche, qui était nationaliste aussi, très très ambigu d'ailleurs avec par exemple le régime fasciste au départ, mais en tout cas ce n'est qu'avec le temps qu'il s'est droitisé, mais il y a toujours eu différentes composantes. En tout cas, lui c'est une rupture, mais ce n'est pas la première rupture. Il y a eu avant lui la rupture de Cuauhtémoc Cárdenas qui avait créé le PRD, hein, le parti de la révolution démocratique, qui était plus à gauche, et lui-même est issu d'une rupture avec le PRD. Donc vous voyez, ce sont des scissions.
Mais il a promis une sorte de grand nettoyage, sortons les sortants.
Oui, tout à fait. Et le discours a marqué, puisqu'il a été élu pour le Mexique de manière triomphale. Et donc ça a étonné tout le monde parce qu'on disait il va faire soit comme d'habitude être premier dans les sondages et ensuite être battu de justesse, mais non, là il a vraiment écrasé toute la concurrence parce que les Mexicains et les Mexicaines ont réellement envie de changer.
Et donc, AMLO arrive au pouvoir, il a fait évidemment toutes sortes de promesses, mais ça, tous les hommes politiques et les femmes politiques en font pour se faire élire, mais il est aussitôt passé à l'acte, donc ça, ça a surpris tout le monde, il a diminué son propre salaire, supprimé ses gardes du corps, supprimé l'avion présidentiel, ouvert le palais présidentiel, etc. C'est quoi, c'est une gestuelle qu'on qualifierait volontiers de populiste?
Alors, évidemment, les critiques disent que c'est du populisme, hein, que ça mange pas beaucoup de pain, diminuer son salaire, de toute façon, son salaire est suffisant, il peut vivre avec. Ses gardes du corps, de toute façon, c'est pas cela, mais il y en a d'autres. Donc, vous voyez, c'est pas ça qui va réellement changer les choses. On l'attend sur des choses qui sont beaucoup plus précises, sur lesquelles il s'était engagé, notamment la lutte contre le crime organisé, contre la corruption qui est, je dirais, le mal absolu au Mexique, la lutte contre les inégalités. C'était dans son programme, tout ça. Et puis, évidemment, tout un tas de choses. Le développement durable, ça ne fait pas de mal de dire qu'on est pour le développement durable, et ça faisait partie de son programme de campagne. L'ambiguïté, hein, qui risque de plomber un petit peu sa période de présidence, c'est que, et cela c'est, je crois, très très symptomatique de la transformation du système politique mexicain, c'est que, à nouveau, pour les dernières élections, c'est pas un parti, il s'est pas présenté au nom de Morena, il s'est présenté au nom d'une coalition Juntos Haremos Historia, ensemble nous ferons l'histoire, et tous les autres partis ont fait pareil. C'est-à-dire que ce sont des coalitions de partis, et le parti porteur disparaît derrière cette coalition, et ce sont des coalitions qui sont parfois un peu bizarres.
Mais donc il y a une extrême personnalisation du pouvoir, et ce qui a surpris aussi par rapport à ses prédécesseurs, c'est que AMLO a en quelque sorte ouvert les bras aux migrants venus de ces pays faillites, ces tout petits pays de l'Amérique centrale, qui fuient donc la misère, la violence, avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, et donc il y a eu un afflux au Mexique, mais maintenant, semble-t-il, le système est au bord de l'asphyxie.
Le système est au bord de l'asphyxie. Au départ, il a eu une pensée très très généreuse et très humaniste. Il a offert des milliers de visas pour les migrants. Mais effectivement, ces migrants, de toute façon, maintenant sont bloqués à la frontière nord, notamment à Tijuana, par exemple. Du côté de Tapachula, c'est-à-dire sur la frontière sud du Mexique avec l'Amérique centrale, là aussi, on est au bord de l'implosion. Et finalement, si on commence à faire bien les comptes, pour les 3 ou 4 premiers mois du mandat d'AMLO, il y a eu plus d'expulsés, de deportados, comme on dit, que à la période correspondante de l'année précédente avec Peña Nieto. Ça veut dire qu'il y a un retour.
Mais c'est aussi parce que le flux a grossi, parce qu'il y a
Alors, il n'y a pas que ça. C'est effectivement une des explications, mais les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, effectivement, il y a plus de gens qui passent, donc il y a plus d'expulsés. Mais même dans les cas où ça baisse, ça peut baisser, eh bien, on se rend compte que la politique est devenue plus rude et plus dure. Et ce n'est pas que pour les Centra-Américains. On a tendance à l'oublier, cette frontière sud. Il reçoit aussi beaucoup de Cubains. Récemment, dans un centre de rétention de Tapachula, il y a près de 1000 Cubains qui se sont échappés. Ils étaient tenus là, ils se sont échappés. Et il y a de plus en plus d'Africains, hein, qui viennent parce que le Mexique était devenu la porte théorique d'entrée vers les États-Unis. Donc c'est la situation est beaucoup plus compliquée que ce qu'on croit.
Laurent Farret, merci d'être avec nous par téléphone depuis Mexico. Vu d'Europe, on a toujours vu le phénomène migratoire comme étant celui de Mexicains tentant de gagner les États-Unis où il y a de l'emploi, et notamment de l'emploi pour les femmes. Je crois qu'il y a quelque 12 millions d'immigrés mexicains aux États-Unis. Est-ce que ce flux-là s'est tari aujourd'hui?
Oui, alors, il ne s'est pas tari. On a eu tendance à dire que il y avait une migration mexicaine vers les États-Unis qui avait marqué pratiquement tout le XXe siècle et puis que ce n'était plus le cas aujourd'hui. Alors ce n'est pas vrai. Il continue à avoir une migration mexicaine, mais elle est aujourd'hui beaucoup moins visible parce que d'abord, elle est dépassée par les migrations, comme le disait Alain Musset, qui viennent de plus au sud, en particulier des pays d'Amérique centrale, mais aussi au-delà. Et parce qu'il y a aussi des moments de retour qui sont importants, de Mexicains qui rentrent des États-Unis qui reviennent vivre au Mexique. Donc voilà, on a plusieurs composantes, disons, migratoires.
Et pourquoi rentrent-ils au Mexique?
Alors, pour différentes raisons. Pour certains, c'est quand même des familles qui n'ont pas arrêté, disons, d'avoir un pied au Mexique, un pied aux États-Unis, et qui, pour des logiques familiales, par exemple, retournent au Mexique pour s'installer au moment de la retraite, etc. Ou bien, pour d'autres, ça peut être lié à des questions, notamment les effets de la crise de 2009 aux États-Unis, et des opportunités économiques qui existaient à ce moment-là au Mexique, et pour lesquelles on est revenu. On a toujours été, entre les États-Unis et le Mexique, on a toujours été dans des logiques migratoires à deux sens, disons, avec des communautés très très installées, mais qui gardaient des liens avec le Mexique. Donc c'est pas très surprenant, ces mouvements dans les deux sens.
S'agissant donc des populations qui viennent du Honduras, du Salvador, du Guatemala en particulier, et on voit parfois les images avec ce sont véritablement... Alors il y a les trains de fret qui sont chargés, les toits chargés à ras-bord, on voit des camions chargés de femmes avec beaucoup d'enfants en bas âge, parce que ce qu'on lit aussi, c'est que les migrants pensent qu'avec des petits-enfants, eh bien ça va... en quelque sorte attendrir les autorités, et notamment les autorités américaines. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que le discours du nouveau président mexicain a déjà changé de nature, ou est-ce que c'est toujours le double discours oui, il faut les accueillir, mais en fait, non, on ne peut plus.
Au Mexique, on a toujours été quand même, par rapport aux pays d'Amérique centrale, dans une position qui est relativement ambiguë. Et de ce point de vue-là, Andrés Manuel López Obrador a voulu faire changement, mais on n'est pas certain que sur le temps long, ce soit si différent que ça. C'est-à-dire que pour les Centra-Américains, le Mexique, c'est à la fois la première puissance voisine d'importance, et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. On parle beaucoup de ce décalage ou de cette marche, disons, en termes de développement économique, de niveau de richesse entre les États-Unis et Mexique, mais on oublie qu'elle existe aussi. Parfois, on oublie qu'elle existe entre Amérique centrale et Mexique. Donc, il y a ce regard assez particulier vis-à-vis du Mexique. Il y a la position qu'a prise le Mexique, notamment à partir des années 1990, d'un arrimage très fort avec les États-Unis, dans le cadre de l'ALENA, bon, et de ses transformations.
Donc l'ALENA, c'était les accords de libre-échange États-Unis, voilà. Canada-Mexique, que Donald Trump a aussitôt dénoncé dès qu'il est arrivé au pouvoir, pour en proposer d'autres, mais qui n'ont toujours pas été examinés par le Congrès américain.
C'est ça. Mais donc du point de vue des pays d'Amérique centrale, cette manière de regarder toujours vers le nord du Mexique, donc vers les États-Unis et le Canada, a créé, disons, une brèche ou un fossé. Alors qu'on a, si on voit le Mexique un peu dans ses composantes, on a une proximité qui est à la fois culturelle, économique, etc., entre tout le sud du Mexique et ces pays d'Amérique centrale. Donc on a un double, disons, positionnement, et qui se retrouve sur la question migratoire. Et surtout sur la question migratoire, avec, et notamment pour López Obrador, un discours qui a été assez clair au départ, de voisins accueillants, de voisins qui allaient être très attentifs à la question du respect des droits de l'homme, à la question de la sécurité humaine, notamment pour les familles, etc., qui a proposé des systèmes de séjour au Mexique, avec des possibilités d'accès à l'emploi, etc., mais qui en même temps, comme ça a été dit précédemment, depuis 3 ou 4 mois, augmente le niveau des expulsions, tente de créer des barrières à la migration et à la mobilité, notamment à l'isthme de Tehuantepec, qui est ce resserrement géographique, disons, entre le sud du pays et la partie centrale et Mexico. Donc on a effectivement maintenant un discours qui devient double et qui, sans doute, est expliqué par le fait que les intentions premières de Morena, donc du parti qui a permis l'arrivée au pouvoir de López Obrador, sont, disons, très contraintes aujourd'hui par les négociations avec les États-Unis. Donc on a une espèce de réelle politique, disons, qui rattrape López Obrador.
Merci de rester avec nous, Laurent Farret, pendant quelques minutes encore, mais allons à Nice, vous rejoindre Isabelle Vagnoux. On voit que Donald Trump, depuis 2-3 jours, envoie à nouveau des tweets concernant sa politique migratoire. Il vient d'annoncer qu'il y aurait de nouveaux critères qu'il appelle universels, c'est-à-dire des conditions d'accès pour mieux filtrer les migrants. Il envoie un tweet avant-hier sur le thème « Combien d'enfants américains vont-ils être victimes de ces migrants qui continuent d'entrer dans le pays ?» Et alors, plus fort encore, le nouveau patron américain de l'Agence d'immigration et des douanes vient d'affirmer que lui, cet homme, est capable, en regardant les yeux des enfants migrants, il est capable de comprendre ceux d'entre eux qui vont rejoindre les gangs. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Isabelle Vagnoux? Est-ce que c'est un nouveau durcissement de la politique de Washington, ou est-ce que c'est au fond toujours la même chose?
Je crois que c'est toujours la même rhétorique. N'oublions pas que vis-à-vis du Mexique et des Mexicains, Trump a été quand même extrêmement dur depuis sa campagne en 2016, puisqu'il il les a traités quand même de violeurs. Donc on est dans la continuité, rien ne change. Bon, c'est une rhétorique extrêmement dure. Ceci dit, dans les actes proprement dits, bien sûr, il y a eu des hommes, l'armée qui a été envoyée sur la frontière, mais ce qui ne se fait pas normalement à l'intérieur du pays. Mais l'argent pour construire le mur n'a toujours pas été accordé par le Congrès. En février, Trump a décrété qu'il allait utiliser des fonds qu'il peut utiliser en cas d'urgence nationale, sauf que là, il y a eu une levée de bouclier. Donc, en fait, on est dans cette rhétorique racisante, disons, extrêmement choquante pour un point de vue européen, mais qui ne se traduit pas encore, en tout cas, dans les actes, par une politique aussi agressive.
Mais on peut imaginer que la campagne électorale américaine ayant déjà commencé, de fait, c'est une rhétorique venant de la Maison-Blanche qui ne va que s'amplifier.
Bien sûr. Tout à fait. Mais bon, il y a d'autres candidats aussi, et il y a d'autres façons de voir les choses, et notamment de la part des démocrates, mais aussi de la part des républicains modérés ou des républicains proches des milieux d'affaires, une façon de voir les choses qui est beaucoup plus proche de la collaboration, de la coopération avec le Mexique, plutôt que ce type de discours ostracisant et extrêmement négatif.
S'agissant des causes de ces mouvements migratoires et singulièrement venus d'Amérique centrale, qui sont donc des États pratiquement faillis, en tout cas des économies à la dérive, est-ce qu'il y a un souci côté américain d'essayer de financer d'une façon ou d'une autre une forme de développement, ou est-ce que ça aussi c'est une période qui est terminée?
Alors, ça a été lancé par Obama à la suite du premier flot de jeunes migrants mineurs centra-américains en 2014. Donc, tout un programme une stratégie a été lancée et financée par le Congrès à hauteur de plus de 700 millions de dollars en 2015-2016, 2016-2017, etc. Alors, les sommes, évidemment, baissent chaque année, et il y a une énorme baisse pour cette année demandée par l'administration Trump, mais le Congrès a rétabli, c'est-à-dire que le Congrès a rétabli les 30% de baisse qui avaient été demandées, n'ont pas été accordées, et le Congrès a rétabli peu ou prou la même somme que l'an dernier. Parce que, et en ça on peut être d'accord avec le président Trump, ces migrations, enfin, l'Amérique centrale est un problème de sécurité nationale pour les États-Unis, mais contrairement à ce qu'il peut dire, ce ne sont pas les hommes, surtout les femmes et les enfants qui viennent aux États-Unis pour se réfugier qui sont une menace, mais bien la situation de poudrière que représente l'Amérique centrale. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les pays les plus dangereux au monde. Le Salvador est le premier pays le plus dangereux au monde par le taux d'homicide. Le Honduras est en cinquième position, le Guatemala en sixième. Donc, plus que dans les six premiers, on ne trouve ni la Syrie, ni l'Irak, ni le Pakistan, ni l'Afghanistan, mais on trouve ces trois pays d'Amérique centrale. Et oui, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des États faillis. Il y a une réelle menace pour la sécurité des États-Unis. Donc, ce que les démocrates voudraient faire entendre à l'administration actuelle, c'est que c'est contre-productif. Couper les fonds, ce que voudrait faire Trump, couper les fonds à l'Amérique centrale est contre-productif puisque ça va générer de plus en plus de violence, de plus en plus d'échecs et de plus en plus de migration. Donc il faudrait au contraire les aider à mettre fin à la corruption, à la violence, entreprendre un vaste développement économique, etc. C'est un travail de très longue ampleur. Je voudrais quand même ajouter que l'administration actuelle a octroyé en décembre dernier au Mexique une aide non négligeable pour développer le sud du Mexique, justement pour pouvoir accueillir ces personnes et leur offrir éventuellement des emplois. Alors tout ça, c'est du long terme, enfin en tout cas du moyen terme, et c'est vrai qu'il y a un hiatus entre la rhétorique extrêmement menaçante et d'un autre côté, la seule issue qui serait un plan de développement, y compris en termes de sécurité, mais sur le beaucoup plus long terme.
Pierre Salama, on voit bien qu'entre la situation d'urgence, à commencer celle de la population mexicaine d'un côté, qui a d'autres priorités, très franchement, que le sort des migrants, et puis ces mêmes migrants qui retrouvent en fait à l'intérieur du Mexique les mêmes phénomènes de violence, les gangs, les passeurs, etc., etc., la marge de manœuvre du pouvoir mexicain est quasiment nulle face aux États-Unis.
Je dirais que celle des États-Unis est également assez faible. En fait, on est face à de multiples arbitrages. La migration aujourd'hui, c'est une manière de faire beaucoup d'argent pour ce qu'on appelle là-bas les coyotes, c'est-à-dire la mafia qui se diversifie, qui partant de la drogue, faisant beaucoup d'argent avec la drogue, maintenant fait des enlèvements et fait aussi également, accompagne entre guillemets les migrants. Et ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui avec les procédures de rétention, notamment dans le sud dont tu as parlé tout à l'heure, c'est qu'on a vu réapparaître ce qu'on appelle là-bas la bestia. La bestia, c'est un train. Au péril de sa vie, on le prend, et protégé par les coyotes, au risque encore pire de sa vie, on a peut-être quelques petites chances d'accéder aux États-Unis.
C'est un et tout ça qui, en payant, évidemment.
En payant. Donc on revient vers des formes, disons, informelles, mais qui sont extrêmement périlleuses. Je veux dire par là que tout ça, c'est extrêmement lié. Mais ce que je voudrais venir dire une chose, c'est que le problème de la migration pour l'Amérique centrale et pour le Mexique, parce qu'il y a des Mexicains qui continuent à migrer, eh bien c'est un problème qui est fondamental, aussi bien pour l'Amérique centrale que pour le Mexique. Je veux dire par là que il y a ce qu'on appelle là-bas les remesas, c'est-à-dire les transferts d'argent des Mexicains ou des Costa-Ricains, Nicaraguayens, etc., vers leur propre famille qui est restée au pays. Vous donnez un chiffre parce que j'aime bien que les chiffres ont un sens quand on comprend ce que ça veut dire. Je vais parler en milliards de dollars, mais ça ne veut rien dire peut-être, mais c'est en 2018, c'est une échelle, 27 milliards de dollars, c'était les remesas seulement pour le Mexique, 27 milliards. Ça veut dire que
Les envois d'argent
L'argent aux familles, ça aide à diminuer la pauvreté localement, etc. etc. Mais c'est surtout, c'est pour donner une idée quand même, parce que le milliard, on n'a jamais eu ça dans sa poche, hein. Franchement, c'est difficile d'imaginer ce que ça peut être. Mais c'est le double du déficit de la balance commerciale mexicaine chaque année. Double. C'est à peu près l'équivalent des exportations de pétrole mexicaine. Donc ça vous donne un peu une idée, c'est quelque chose vraiment de très très important. Je veux dire, le Mexique est un pays qui est relativement pauvre en matières premières, surtout si vous faites la comparaison avec le Brésil, mais il a une matière première, c'est l'homme. L'homme qu'il envoie, entre guillemets, aux États-Unis. Et c'est pareil pour les pays d'Amérique centrale, Costa Rica ou autres pays comme Nicaragua, Salvador, etc. Et ça veut dire que ces pays sans les migrants qui sont aux États-Unis ne pourraient pas boucler, comme on dit, leur reproduction économique. Ils rentreraient en profonde, mais vraiment en profonde crise. C'est en ce sens que c'est un élément clé pour Hablot, à savoir que si, par exemple, Trump bloque les transferts ou cherche à bloquer les transferts d'argent, il peut le faire. Déjà, on prend beaucoup de taxes là-dessus, hein, mais il pourrait peut-être le faire. Alors là, le pays risquerait, je crois, d'être relativement étranglé. Il y a un second problème, c'est que Hablot, à l'inverse, peut jouer sur ces migrants parce qu'il sait très bien que les États-Unis ont besoin des migrants. C'est pas absolument le criminel qui arrive, tel qu'il a été décrit par Trump, le violeur, le criminel.
Non, c'est toute l'économie agricole de la Californie en particulier.
Absolument, c'est toute la main d'œuvre, etc. Et puis c'est pas seulement la main d'œuvre non qualifiée, mais c'est aussi la main d'œuvre qualifiée. Et donc là, on a déjà vu les premières oppositions qui ont pu arriver du côté de la Californie, s'opposant précisément aux politiques migratoires de Trump. Donc on est dans une situation, pour les États-Unis également, relativement périlleuse. Donc je crois qu'il faut faire, à mon avis, peut-être un petit peu attention à ce niveau-là.
Mais il y a une autre forme d'interdépendance qui est beaucoup plus réelle qu'on l'imagine sur le plan économique et commercial. C'est-à-dire que le Mexique, si je ne m'abuse, est le troisième partenaire commercial des États-Unis.
Absolument.
Le deuxième fournisseur après la Chine et le deuxième marché après le Canada. Donc quand Donald Trump dit « Ah ben si les Mexicains n'arrivent pas véritablement à réguler le phénomène migratoire, je vais imposer des tarifs douaniers. »
Ça fait partie de ces ensembles d'arbitrage. Quel est le problème pour Trump? Il veut réduire le déficit commercial qui est assez important, plus de 50 milliards de dollars, avec le Mexique. En oubliant une chose, c'est que c'est un faux déficit, entre guillemets. S'il y a déficit, c'est parce que les Mexicains, quand ils produisent des produits qu'ils exportent aux États-Unis, n'importent pas seulement des États-Unis, mais maintenant des pays asiatiques. Ça, c'est quelque chose
de nouveau.
Et d'abord de la Chine, etc. C'est ce qu'on appelle l'éclatement international de la chaîne de valeur. Donc, c'est en ce sens que toutes ces discussions ont été, quand on a discuté pour l'ALENA, le nouvel accord ALENA, ça a été des discussions, en fin de compte, une répétition générale, si je puis dire, avant de s'attaquer à la Chine. Et ça, c'est le grand problème, parce que derrière tout cela, il y a des lobbies aux États-Unis quand même, malgré tout. Alors, il y a encore de nouveaux arbitrages. C'est l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est très important au Mexique. C'est une industrie américaine, pour l'essentiel. De mettre des droits de douane sous prétexte qu'on importe de Chine, etc., ça va pas dans les intérêts de la General Motors ni de la Ford. Alors, l'arbitrage, c'est dire, oui, si vous acceptez de diminuer les importations de Chine et compagnie, qui vont au Mexique pour être après réexportés aux États-Unis, alors je vais vous abaisser vos impôts. Mais c'est un arbitrage qui est sur le fil du rasoir, parce qu'à quel moment on gagne, à quel moment on perd. Et là, je pense que Trump se retrouve véritablement dans une situation qui est pas évidente à manœuvrer. Je veux dire, c'est
un problème. Et donc les rapports de force ne sont pas nécessairement inversés, mais voilà, ça veut dire aussi que le Mexique ne manque pas d'atouts. Je lisais quelque part que l'avocat qui est devenu, je parle du fruit, l'avocat, qui est devenu très 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 à la mode aux États-Unis, le prix a augmenté de 40% en une semaine parce que le Mexique, à un moment donné, a interrompu ses exportations.
Pour les avocats, oui.
Oui, je parle que de l'avocat, donc ça peut paraître marginal, c'est moins important que l'automobile, mais enfin, on voit que pour le consommateur américain, il y a une interaction immédiate.
Je pense que Trump joue, il a les contraintes économiques, disons qu'ils sont à moyen terme, mais les contraintes politiques, ils sont à court terme, et donc ils jouent sa clientèle, faire croire qu'il défend le travail, les travailleurs, l'emploi, etc. Pour l'instant, il est dans une bonne situation, puisque l'économie américaine se porte relativement bien. Et il est en préparation, depuis le premier jour où il a été élu, il est en préparation, il est en campagne électorale pour passer, gagner un second mandat. On est dans une situation où il y a ce court terme, si je puis dire, et puis il y a l'état de l'économie, les lobbies, l'importance des lobbies aux États-Unis qui sont quand même, je crois, relativement importants. Je voudrais dire juste peut-être un point, c'est que ces deux économies sont tellement imbriquées aujourd'hui que hier, quand on disait, on n'a pas utilisé là l'expression qu'on était si près des États-Unis et si loin de Dieu, quand on parlait des États-Unis, c'est ce qu'on disait au Mexique. Et maintenant, on pourrait dire presque pour les États-Unis, si près si près du Mexique et si loin de Dieu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est une situation difficile. Je voudrais juste ajouter encore un point.
Oui, attendez, parce que je veux dire, vous avez plusieurs fois l'occasion d'intervenir. Je voudrais retourner à Mexico et rejoindre Laurent Faret, qui a la gentillesse donc d'être avec nous. Pour lui, les horaires sont très, très différents. Laurent Faret, vu du Mexique, cette imbrication entre les deux économies, cela signifie aussi que les nouveaux accords que le Congrès américain n'a toujours pas ratifiés ont une incidence sur la politique économique mexicaine et notamment sur les lois sociales.
Oui. Alors, bien sûr, cette question de la renégociation de l'ALENA, qu'on appelle aujourd'hui le TEMEC, a été un des thèmes forts de ces relations avec les États-Unis. Beaucoup moins d'ailleurs avec le Canada. On a bien vu comment c'était, là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre Salama, comment cette imbrication des économies états-uniennes et mexicaines était l'élément essentiel. La question pour le Mexique, elle a quand même beaucoup été cette idée que si à travers un système de libre-échange avec les États-Unis, ça permet une amélioration des situations de vie, etc., ce sera dans tous les cas sous condition et dans la mesure où sur d'autres dossiers ou sur d'autres sujets, les États-Unis ont aussi une position qui s'assouplisse. Et c'est un peu l'intention qu'a López Obrador. Il a été dit plus tôt que les questions, par exemple, migratoires, pouvaient être mises dans la balance de discussions économiques. Donc c'est un peu, chacun essaye de faire valoir ses arguments. Donc évidemment, il peut y avoir des effets très forts au Mexique, du type d'accord qui arrive à se mettre en place avec les États-Unis. Les menaces de fermeture de frontières dont a parlé Trump peuvent être assez catastrophiques sur ces questions-là. Vous parliez de l'avocat, mais c'est toute une économie mexicaine qui peut être bloquée par une fermeture même de quelques jours de la frontière. Donc en vrai, avec les conséquences économiques, mais aussi sociales, donc sur les populations, sur les revenus des familles, sur les problèmes que ça pose en termes d'aller chercher de l'emploi ailleurs, etc. Donc aussi des mobilités.
On voit que...
Je voudrais revenir sur un point, si vous me permettez, qu'on mentionne peut-être pas suffisamment. C'est d'une part l'instrumentalisation permanente de la question migratoire à visée électorale. C'est un peu devenu...
Mais ça, c'est pas une spécialité américaine, voilà, ni nord-américaine, ni sud-américaine.
Donc d'une part, et d'autre part, tout de même, le traitement médiatique de ces questions migratoires. Et là, je crois qu'il y a une espèce de... Comment le dire ? Il y a une espèce de surexposition de ces mobilités qui, évidemment, parfois partent de bons sentiments, j'allais dire, ce sont des situations de pauvreté, etc., évidemment. Mais avec cette surexposition-là, on oublie de dire que dans bon nombre de régions, et dans celle-ci en particulier, ces questions migratoires sont très anciennes, elles sont quasiment structurelles. Le Mexique a vécu plus d'un siècle d'émigration vers les États-Unis. On n'en parlait pas tous les jours dans la presse. L'Amérique centrale, les pays centra-américains, il y a de la migration soit interne à l'espace sous-régional, soit vers le Mexique, soit vers les États-Unis, depuis au moins 30 ou 40 ans. Ce qui fait qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui, ce sont, à mon avis, trois choses. La première, c'est les niveaux de violence qui augmentent. Et ils augmentent pourquoi ? Parce que les inégalités sociales ont également augmenté, parce que la marginalité économique d'un bon nombre de foyers s'est aggravée, etc. On en parle aussi beaucoup parce que les formes de la migration ont changé. On a beaucoup parlé de ces caravanes migratoires, mais pourquoi des caravanes ? Parce que précisément les dangers encourus lors de la traversée du Mexique obligent à se regrouper, obligent à chercher protection par le nombre, disons, pour traverser le Mexique. Et troisièmement, on en a beaucoup parlé parce que dans des agendas politiques internes, nationaux, c'est très vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi au Mexique, on a utilisé la question migratoire pour, et ça effectivement, comme vous disiez, c'est très classique et c'est pas le propre de la région. Mais voilà, et cette espèce de surinterprétation, de cette surmédiatisation des migrations est parfois problématique. D'autant qu'en termes de volume, si on regarde ces caravanes qui, disons, commencent à partir d'octobre 2018, donc c'est pas un phénomène ancien, on est sur des volumes qui sont extrêmement bas par rapport à des dynamiques de mobilité qui sont beaucoup plus anciennes et qui étaient quasiment invisibles jusqu'à cette phase-là.
Le président mexicain est donc au pouvoir maintenant depuis 5 mois, je crois. Oui. Il est arrivé avec un taux de popularité extrêmement élevé. Est-ce que il se maintient à ce taux
López Obrador, je crois que on peut rappeler ici que c'est un homme politique qui connaît très bien son pays, qu'il a sillonné dans tous les sens. C'est quand même, il est devenu président à la 3e campagne électorale. Il a été gouverneur de la ville de Mexico. Il a été président donc du PRD, ça a été dit, le Parti de la Révolution démocratique, etc. Donc c'est pas une figure nouvelle. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il a creusé un sillon. Il a construit une popularité, notamment dans les classes moyennes et populaires, disons, surtout les classes populaires, mais aussi un peu dans les classes moyennes, qui ont envie de ce changement. Ça a été dit au début, il y a vraiment une envie de changement. Et de ce fait-là, sa popularité se maintient, pour l'instant. Elle se maintient relativement bien par rapport à ce qu'on connaît d'autres présidents, qui chutent très vite en termes de popularité une fois qu'ils sont aux affaires.
Laurent Ferret, merci mille fois d'avoir été ainsi longuement au téléphone avec nous et de nous avoir apporté toutes ces explications. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire. On voit aussi que López Obrador a pris soin de cultiver, à juste titre, la fierté nationale mexicaine. Et on a appris avec surprise néanmoins qu'il avait demander des excuses autant à l'Espagne qu'au Vatican, des excuses évidemment pour la colonisation 500 ans après que le conquistador Cortés ait vaincu les civilisations indigènes.
Oui, c'est cette lettre effectivement qui envoyée au début de l'année qui a provoqué ce qu'on pourrait appeler une polémique. Cette lettre donc envoyée par le président mexicain à l'Espagne, mais donc avec copie aussi pour le pape François, elle demandait des excuses effectivement pour les violations des droits de l'homme commises pendant la conquête espagnole. À Madrid et à Rome, on a peu apprécié et on n'a pas donné suite à cette lettre. Mais la presse mexicaine, elle, s'est emparée du sujet. Il faut dire que le courrier n'a pas été envoyé à n'importe quel moment. C'est effectivement il y a juste 500 ans, c'est-à-dire au printemps d'année 1519, que le conquistador Hernán Cortés débarque sur les côtes de l'actuel Mexique. Et 2 ans plus tard, Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, qui allait devenir la ville de Mexico, capitule. Or, cette lettre du président mexicain demande, je cite, que la couronne espagnole reconnaisse publiquement les outrages commis par l'Espagne et par l'Église contre les peuples amérindiens, nous dit le site 24 Horas, qui cite le texte de cette lettre. La polémique a vite tourné autour de cette question de l'identité mexicaine que résume le journal Milenio. Pendant 500 ans, la nation que nous formons aujourd'hui s'est construite avec les Espagnols et les Indiens, mais son identité a fini par être confondue avec le principe des ennemis éternels. En réalité, poursuit Milenio, une partie des Mexicains veut croire qu'ils sont toujours les Mexicas, les habitants de l'époque précoloniale, alors qu'une autre partie ne jure au contraire que par une identité majoritairement d'origine espagnole avec une dose d'indianité. Alors, de quel côté penche le Mexique ? La revue culturelle Netsos est allée interroger l'historien Hector Aguilar Camín, qui explique que le Mexique, en niant son héritage colonial et ses origines hispaniques, s'est forgé une identité aussi fantasmée que contrariée. Je le cite, « À l'heure des intégrations planétaires que nous propose le monde, notre réponse ne peut pas être l'exclusivisme local, aztèque, guarani, cholo, chicano ou catalan. » Nous devons au contraire remettre à l'honneur l'expérience ibéro-américaine de la diversité dans l'unité. Celle-ci, je cite toujours, commence par la présence grecque et romaine dans la péninsule ibérique et se poursuit aujourd'hui avec cet hispanophone sans papier qui cherche sa place dans l'économie des États-Unis, s'implante et se mélange, mais en même temps résiste comme la frontière culturelle ibéro-américaine a résisté à travers les siècles face aux États-Unis.
Il y a évidemment une autre facette de l'identité mexicaine, on y a déjà fait allusion, c'est évidemment la violence et la puissance des cartels de la drogue. Le procès d'El Chapo aux États-Unis a été un moment tout à fait singulier, où les Mexicains d'ailleurs ont jugé que les Américains avaient beau jeu de considérer qu'il n'y avait pas de cartel. Côté américain, El Chapo et certains de ses camarades glorifiés, d'ailleurs il faut bien le dire, par plusieurs séries en ce moment.
Alors c'est vrai qu'on pouvait en tout cas imaginer que l'arrestation en 2016 et puis ce procès en début d'année, donc finalement l'élimination du plus célèbre trafiquant de drogue au monde, est à la fois une valeur symbolique et un effet dissuasif. En tout cas, c'est ce qu'écrit le quotidien américain USA Today. Mais l'impact réel sur le commerce transnational de la drogue pourrait être minime, nuance largement le journal, car non seulement le cartel de Sinaloa que dirigeait El Chapo reste toujours aussi actif, mais un nouveau groupe criminel rival, le cartel de Jalisco Nueva Generación, présente aujourd'hui un danger similaire. Quant à la violence, elle fait toujours partie du quotidien du pays. Au cours des trois premiers mois de l'année, le nombre de meurtres a augmenté de 9,6%. 8493 personnes ont été tuées pendant ces trois premiers mois. Ces chiffres sont une mauvaise nouvelle pour le président López Obrador, qui avait fait campagne l'an dernier, on l'a dit en début de cette émission, sur une promesse d'une baisse de la violence. Les journalistes sont particulièrement visés. Cette semaine, on a retrouvé le corps de l'un d'entre eux dans les environs de Cancun. Francisco Romero Diaz est le cinquième journaliste à être tué cette année, en 2019, au Mexique, un pays parmi les plus dangereux au monde pour les reporters, rappelle le journal El Sol de Mexico.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Alain Musset, je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Cette violence, cette puissance des cartels s'accompagne évidemment d'une culture de la corruption. Vous y faisiez allusion dès le début de cette émission. Corruption qui représente, paraît-il, jamais compris comment on arrivait à calculer ça, mais quelques 5% du PIB mexicain.
Oui, c'est évidemment une estimation, parce que c'est assez difficile de tenir les livres de compte de la corruption. Mais encore une fois, il faut donner un chiffre et il faut qu'il soit gros. Donc c'est pas mal, mais il faut pas qu'il soit trop gros, parce qu'autrement, c'est plus crédible. Donc en réalité, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques années, le Sénat mexicain avait fait une enquête approfondie sur les municipios, sur les municipalités mexicaines. Et le résultat de cette enquête, c'était qu'il y avait 70% des communes, des municipalités qui étaient contrôlées complètement ou en tout cas infiltrées par les cartels. C'est quand même un chiffre impressionnant. Ça ne nous donne pas de chiffres sur le nombre de dollars que ça représente, mais on voit qu'on se situe dans un pays où il y a une culture, une véritable culture de la corruption, mais qu'on retrouve malheureusement à tous les niveaux. C'est toujours facile de dire c'est les plus puissants, les plus riches, etc. C'est vrai, c'est eux qui en tirent le plus profit, mais c'est à tous les niveaux de la société, malheureusement, que ça retrouve. Pour pas payer une amende, on va à la place payer ce qu'on appelle la mordida. On mord un petit peu, on donne un petit peu d'argent aux policiers. Ce qui permet à l'État mexicain, en fait, de mettre tout le monde sous sa coupe. Je veux dire, on paye très peu le policier, donc il faut qu'il se rattrape sur la bête. C'est évident. Mais en même temps, la personne qui est prise ne paye pas l'amende, paye un peu moins. Et donc, tout le monde est un coupable potentiel. Et à tout moment, on peut tomber sous le coup de la loi. C'est un système génial.
Mais dans le procès d'El Chapo, donc, qui a eu lieu à New York, ce qui était saisissant, c'est qu'en gros, tout le système politique et économique mexicain a pratiquement été cité, à commencer par l'ancien président des États-Unis, mais des États-Unis, lapsus, du Mexique, mais évidemment, pas de preuves. Donc tout ce petit monde ou tout ce grand monde.
C'est en ce sens-là que les propositions de López Obrador étaient intéressantes. Il disait mais maintenant il faut s'attaquer à tout le monde, il faut s'attaquer là où ça fait mal, c'est-à-dire aux banques, parce que ce sont les banques finalement qui favorisent le blanchiment de cet argent malhonnêtement gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le moment, malheureusement, on attend. Mais ce qui est intéressant aussi dans le cas du procès de Chapo, c'est que, évidemment, du côté des États-Unis, la faute vient du Sud, et l'idée de se remettre en cause, non, ça me fait vraiment penser à ce qui s'était passé au moment de la guerre contre la drogue en Colombie, où on avait dit, les États-Unis avaient dit, il faut éradiquer la coca, Hein, mmh. Et les Colombiens avaient dit, d'accord, mais il faut que vous, de votre côté, vous fassiez la même chose avec vos narines. Si vous arrêtiez un petit peu de flirter avec la coque, nous, on produirait autre chose. Donc, c'est toujours la faute de l'offre. Et c'est pas la faute de la demande, mais c'est quand même cette demande-là qui va agir sur le marché. Et c'est un marché.
Pierre Salama, il y a un autre marché sur lequel le Mexique a quand même quelques arguments, ou les avait, c'est le pétrole. Et on voit que la société pétrolière mexicaine est très 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 mal en point, avec une dette absolument énorme. Et donc là aussi, est-ce que c'est un effet de ce système de prévarication généralisée?
Oui, enfin, sans, la drogue, enfin pas la drogue, je m'excuse, la mafia de la drogue s'est diversifiée et notamment elle a attaqué les pipelines. Et là, il y a eu un scandale récemment.
Ça c'était sidérant parce qu'il y a des vols de pétrole.
Oui, donc, absolument. En fait, il y a cette
oléoduc
qui a explosé. Ça a fait quand même 91 absolument, morts au mois énorme. De janvier. Hein.
Oui, absolument. Donc c'est énorme. Et donc ça perturbe le jeu de AMLO parce qu'il avait l'intention de s'attaquer.
AMLO, rappelons-le, c'est donc
Il avait l'intention de lutter contre la drogue en dissociant les petits des gros. Oui. Bon, ça n'a pas très bien marché pour l'instant. La preuve, c'est les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Et de facto, il est obligé maintenant de précipiter la manœuvre, si je puis dire, parce que effectivement, la Pemex, c'est-à-dire la grande compagnie pétrolière, a connu ce fameux problème et qui est révélateur, effectivement, depuis très très longtemps, du pompage illégal par les narcotrafiquants, si je puis dire.
Mais aussi par des habitants,
Je me souviendrai toujours, par exemple, d'un énorme accident qui a eu à Salvador de Bahia il y a quelques 10 ans ou 15 ans. Il y a un train qui a déraillé et qui était bourré de pétrole. Les gens sont venus avec leur seau, mais ils venaient aussi avec la cigarette. Et le train a explosé, il y a eu 400 morts. C'est pour dire qu'il y a, effectivement, ça traduit la misère du pays et toutes ces choses-là. Donc là, on est dans une situation, mais le pétrole, ce qui est très intéressant dans l'histoire du pétrole, c'est que les Mexicains apportent davantage de pétrole qu'ils n'en exportent. C'est surprenant. Là, on s'attendait que non. C'est tout simplement pour une raison que simple, c'est que on ne raffinait pas le pétrole. On le raffine là-haut, là-bas, en haut, aux États-Unis. Donc, on exporte du pétrole et on réimporte du pétrole raffiné.
Et ça, c'était la pression des compagnies américaines.
Certainement, sauf que la Pemex est mexicaine.
Oui. Oui, c'était même le symbole de la révolution mexicaine. Oui.
Donc là, on a quand même un petit problème, c'est-à-dire c'est le bout du bout d'un système néolibéral qui ne cherche pas à faire de la valeur ajoutée, qui cherche simplement à exporter ce qui est brut, si je puis dire, hein, à la différence de ce que font les pays asiatiques. Et ça, c'est le bout du bout de ce système-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment un symbole, le Mexique ne pourra s'en sortir demain que s'il commence à faire de la valeur ajoutée et pas seulement de l'assemblage comme il le fait jusqu'à présent. Dans les fameuses maquilladoras. C'est un énorme projet parce que le Mexique, aujourd'hui, veut avoir une politique redistributive un peu plus massive. C'est le projet de López Obrador. Et de l'autre côté, il a une croissance qui est plutôt faiblarde, qui est sur 20 ans la plus faible des grands pays latino-américains. Et sur les dernières années, elle était un peu plus élevée, mais aujourd'hui, elle n'est même pas à 2%. On pense que ce sera à 1,5%. Et comme par ailleurs, les industriels sont en opposition à l'heure actuelle avec López Obrador à cause de ce qu'ils craignent de López Obrador à venir, ils retardent leurs investissements, si bien que le Mexique se retrouve dans une situation économique de plus en plus difficile qui rend, disons, de plus en plus difficile de refaire de la distribution.
Et cette inquiétude vient d'un certain nombre de décisions que le nouveau président a prises.
Les mesures sur les salaires.
On arrête le nouvel aéroport, on baisse les salaires des fonctionnaires.
L'aéroport qui était, je crois, deux tiers construit.
Un peu plus de 30% réalisé. 30%.
Mais déjà qui avait donné lieu à des flots de corruption absolument massifs. Bon, il y a eu cette position. Il y a cette crainte, en fait, de ce que, effectivement, López Obrador, qui n'a pas vraiment de programme, il n'a pas vraiment de programme économique, il a des grands mots, comme tu l'as souligné tout à l'heure, mais pas de programme précis. Et ils craignent qu'obligés, ils soient conduits à peut-être nationaliser davantage, être davantage directif, faire de l'économie administrée, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un paquet de fantasmes qui sont portés sur López Obrador, non pas de la part des 62-65% de gens qui l'appuient à l'heure actuelle, au bout de 6 mois, quand même, c'est pas mal.
Mais
de la part de l'élite, et notamment l'élite qui est dans le système, comment on s'appelle, des appareils d'État, qui, cette fameuse élite, gagnait jusqu'à 3-4 fois plus que ce qu'on leur offre aujourd'hui, puisque les salaires des hauts fonctionnaires doivent s'aligner sur celui de López Obrador.
Mais Carlos Slim, donc le Mexicain le plus riche et qui est aussi l'un des hommes les plus riches du monde, continue de soutenir.
Oui, il continue de soutenir. C'est même très probable. Il avait déjà soutenu, la précédente fois, il avait soutenu. Mais c'est un homme qui est complètement mêlé à la corruption. Il a fait sa fortune là-dessus. C'est aussi un entrepreneur au sens fort du terme. C'est-à-dire, il a créé des choses aussi. Je ne sais pas très bien quelle va être son attitude de demain. Aujourd'hui, il continue à appuyer, mais jusqu'à quand? Parce qu'il était impliqué, notamment dans cette affaire de l'aéroport. Sera-t-il impliqué dans la construction du nouvel opérateur, du nouvel aéroport?
Une autre manière de reconduire, qui a été
confiée justement aux militaires. Pour essayer de réduire les risques de corruption en pensant que l'armée, elle, va être au-dessus de tout ça.
On retourne à Nice pour vous écouter, Isabelle Wagnou, sur un autre aspect de la politique de ce nouveau président mexicain. On sait à quel point le Venezuela continue d'être accablé par cette crise interminable entre Maduro et le jeune président autoproclamé. Le Mexique a décidé de rester neutre, à la différence de tous ses voisins. Qu'est-ce que cela explique de la position de López Obrador? Est-ce qu'il est en fait pro-Maduro?
En tout cas, il revient à une position historique du Mexique qui était la non-ingérence et la non-prise de position par rapport à des affaires internes de d'autres pays. Et c'est la fameuse doctrine Estrada que les Mexicains, entre autres latino-américains, brandissaient très, très volontiers au début du XXe siècle. Et c'était une manière aussi de ne pas s'aligner sur les États-Unis. Donc on peut le soutien à Maduro de fait, si vous voulez, en ne prenant pas position contre lui, c'est une manière de le soutenir indirectement, mais c'est aussi une manière de résister d'une certaine façon à Trump. Tout à l'heure, il a été dit que les Mexicains avaient des moyens aussi d'une forme de résistance vis-à-vis de Trump, même s'ils sont ils paraissent beaucoup plus faibles, mais c'en est une, c'est-à-dire de ne pas suivre les États-Unis dans leurs décisions de politique étrangère, c'est une façon de montrer sa résistance et de montrer son opposition.
Est-ce que le Mexique, aujourd'hui, a des ambitions régionales? On voit, encore une fois, que sa géographie lui impose toutes sortes d'ajustements. Et comme le disait Pierre Salama tout à l'heure, il y a les ajustements à court terme et puis les problèmes ou les solutions à très très long terme. Est-ce que il y a une ambition de rayonnement au niveau régional? Certains prédécesseurs de l'actuel président les avaient nourris, ces ambitions.
Tout à fait. Alors, l'ambition, elle reste certainement la même. Après, est-ce qu'elle peut se concrétiser? C'est une autre chose, puisque en ce moment, on est quand même dans une période de crise qu'on n'avait pas eue depuis les années 80. La paix était plus ou moins revenue en Amérique centrale à la fin des années 80. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on n'était pas dans ce climat, dans un climat aussi tendu. Donc oui, il est bien certain que c'est une puissance régionale, mais on voit bien que le Mexique, à lui tout seul en tout cas, n'a pas les moyens ni de rétablir un certain ordre en Amérique centrale, ni de faire faire cesser la violence, ni de faire stopper le flot des migrants, etc., etc. Donc c'est très difficile. Et en même temps, le Mexique s'est ouvert à d'autres puissances, la Chine notamment. déjà son prédécesseur l'avait fait, et c'est probablement quelque chose qui va continuer via le partenariat transpacifique dont les Américains se sont retirés dès les premiers mois de Trump, et qui était une façon aussi de lier les pays pacifiques des Amériques, du Canada jusqu'au Chili, et notamment les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et le fait que Trump ait demandé le retrait de ce partenariat fait que le Mexique et le Canada continuent avec les autres, et pour le Mexique, regardent aussi, comme d'autres pays d'Amérique latine, de plus en plus vers la Chine.
Alain Musset, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que, d'une certaine manière, Donald Trump et López Obrador, donc le président américain, forment une espèce de couple dont les liens sont en quelque sorte indissociables, au-delà de la rhétorique de l'un comme de l'autre, d'ailleurs. Même si AMLO prend grand soin de ne pas s'en prendre directement à la politique de Trump.
Le terme de couple est assez paradoxal, parce qu'effectivement, il y a théoriquement pas grand-chose qui peut les attirer l'un l'autre. Les atomes crochus, il n'y en a pas. Mais ils ne peuvent pas ni se mépriser ouvertement, ni se défier à la face du monde. Parce que, Pierre l'a très bien dit, ils sont de toute façon tellement liés l'un à l'autre, un petit peu comme des poupées attachées, que leur capacité de manœuvre est très très limitée. Si Trump décide réellement de taper sur le Mexique, ça va lui retomber dessus. Il faut pas oublier, on a parlé de 12 millions de migrants mexicains, on sait pas exactement combien, mais
installés aux États-Unis.
Oui, mais il y a beaucoup plus de gens d'origine mexicaine qui sont installés là depuis plusieurs générations, et la communauté latina et maintenant la communauté la plus importante des États-Unis après la communauté blanche anglo-saxonne.
Et, avec une démographie
qui est bien supérieure.
Va dépasser celle de ceux qu'on appelle les Caucasiens aux États-Unis.
Exactement, on les appelle des Caucasiens.
Dans très peu de temps.
Et il y a quand même là aussi une chose qui est très importante, c'est que si je ne me trompe, il n'y a pas de vraie langue officielle aux États-Unis, il me semble bien, même si l'anglais est la langue la plus répandue.
Mais l'espagnol devient la langue la plus répandue.
Et il y a beaucoup de conservateurs qui disent mais il faudrait imposer une langue obligatoire de partout, parce qu'autrement c'est l'espagnol. Et justement, dans les dernières mesures prises par Trump pour l'accueil d'une immigration choisie et non pas subie, des termes qu'on a déjà entendus, c'est des jeunes, oui, mais des jeunes qualifiés et qui parle anglais.
Et qui parle anglais. Ce sont les toutes dernières mesures donc que Trump a qualifiées donc de critères universels et qui viennent d'être annoncées il y a deux jours à la Maison-Blanche. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Merci à vous, Alain Musset. Vous avez publié Le Que sais-je sur le Mexique, et vous avez dirigé avec Jean-Yves Piboubès Géographie des Amériques en 2017 chez Nathan. Pierre Salama, vous avez publié Des pays toujours émergents à la Documentation française en 2014 et coordonné le dossier sur les BRICS et le monde pour Recherche internationale. Ça, c'était en 2017. Je remercie évidemment Laurent Faret qui était avec nous depuis Mexico et qui vient de publier dans la revue Hérodote un très bon papier sur enjeux migratoires et nouvelles géopolitiques à l'interface Amérique latine États-Unis. Par téléphone depuis Nice, Isabelle Vagnou, rédactrice en chef de la revue Ideas, Idées d'Amérique. Vous avez notamment coordonné le numéro sur Cuba et les États-Unis. Merci, comme chaque semaine, à Eric Scholl, à la réalisation ce matin, Luc Jean Reynaud, à la technique, Pierrick Mancini. Meryl Moneghetti a bien sûr préparé cette émission et mettra sur notre site toute la bibliographie nécessaire. Et dans un instant, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.